Il est 6h du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6h du BAT. Ce matin, on part sur les terres parisiennes de Solène pour une aventure familiale. Je reçois Solène Treptel. Salut Solène.
Salut Nicolas, ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ouais.
Écoute, je suis trop content de te recevoir. Ça fait pas mal de temps qu'on échange, qu'on communique à travers les réseaux sur ta page donc Solène Machinerie, où tu déploies pas mal de ton activité. On va parler de pas mal de sujets qui font écho à ce que j'aime dans le secteur du bâtiment. On va parler aventure familiale, on va parler métier peu connu et on va parler surtout de tout un parcours qui est assez intéressant à explorer. Je vais te laisser te présenter un tout petit peu et nous donner un peu de contexte à cet épisode. Qui es-tu, ton parcours et ton lien avec l'ETP?
Oui, ça marche. Donc moi, je suis Solène Treptel. Sur les réseaux sociaux, je suis connue sous le nom de Solène Machinerie. Moi, en fait, ça fait 2 ans que j'ai rejoint le secteur des travaux publics, puisque ça fait 2 ans que j'ai rejoint l'entreprise familiale, qui a été créée il y a 9 ans par mon frère. Et en fait, s'il m'a embauchée, c'est pour développer le réseau à la fois national et international. Et en fait, mon rôle consiste à acheter et vendre des machines d'occasion, mais aussi à mettre notre entreprise en avant sur les réseaux sociaux, à faire connaître le métier, parce que c'est un métier assez discret, le métier de négociant, et voilà, à faire notre promotion, à développer un réseau qui nous permet d'enrichir notre parc toute l'année.
Un bon sujet d'aventure familiale, c'est vraiment la chose que j'aime bien développer aussi sur le podcast, parce que c'est 70% des entreprises dans le bâtiment, je pense, à grosso modo, hein, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a énormément d'aventures familiales qui sont dans le TP, dans le bâtiment. Du coup, ça va faire écho à pas mal de parcours de personnes qui vont écouter. C'est quoi les racines de ce projet, les débuts de l'entreprise Treptel? Ça vient d'où cette volonté de travailler dans les machines TP et surtout en famille?
Alors, bon, déjà, pour revenir au tout début, en fait, notre père, lui, il a toujours travaillé dans le secteur des travaux publics. Donc, du coup, mon frère et moi, on a toujours grandi dans ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on entendait parler des marques, on entendait parler des clients. Dès que notre père était au téléphone, il parlait très fort, il s'exclamait, il avait l'air d'avoir une bonne ambiance. Et voilà, nous, on a grandi dans cette atmosphère-là. Après, lui, mon frère s'est vite dirigé sur cette voie-là. Moi, pas du tout, parce que c'était pas un secteur qui m'attirait au départ. Moi, déjà, j'ai fait des études un peu plus longues. Je suis partie à l'étranger et le premier secteur dans lequel je me suis investie, c'était le secteur du luxe, donc vraiment rien à voir. Okay. Moi, au départ, j'ai fait 1 an pour la maison Hermès, puis 2 ans pour la maison Chanel. Okay. Et en fait, comment ça s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu le Covid qui est arrivé. Moi, j'étais en CDD à cette période-là, donc du coup, je suis arrivée à la fin de mon contrat de CDD et il n'a pas pu être transformé en CDI puisque toutes les boutiques Chanel partout dans le monde avaient fermé. Donc, toutes les embauches étaient gelées provisoirement au départ et finalement, ça a duré un petit peu plus longtemps. Donc, au départ, je cherchais plutôt un job assez similaire. Et en fait, au fil des entretiens, je me suis rendu compte que ça me barbait vraiment de m'imaginer retourner en salle de réunion, de m'imaginer pendant des heures décortiquer des sujets que je trouvais un peu futiles, pas assez concrets, en fait.
Ouais.
Et du coup, je me suis mis à rechercher du boulot vraiment dans tous les domaines possibles, imaginables, enfin même à l'armée, etc. Et quand mon frère m'a vu partir dans tous les sens comme ça, il s'est dit que voilà, j'étais ouverte à n'importe quelle opportunité intéressante. Et du coup, c'est là qu'il m'a dit mais pourquoi tu travaillerais pas avec moi ? Donc c'est vraiment à 100% son idée. Et au début, moi, j'y croyais pas du tout à cette idée parce que pour plusieurs raisons. Déjà, j'étais pas forcément attirée par le secteur, donc mon niveau de motivation très moyen.
Ouais.
Et l'autre raison, c'est que je me suis dit, une femme dans ce domaine-là, elle aura aucune crédibilité. C'est quand même un milieu qui est assez brut de décoffrage, donc ça va pas fonctionner. Et puis surtout aussi, l'entreprise de Pierre tournait bien. Sans moi, il a toujours travaillé tout seul et avec l'aide de notre papa au début.
Okay.
Et ça fonctionnait très bien. Donc moi, je voyais pas très bien ce que je pouvais apporter de plus à ce business-là. Et en fait, du coup, c'est lui qui, pendant des semaines, a dû vraiment ramer pour me convaincre. Et au final, il m'a convaincue, puisqu'en fait, il m'a proposé des missions qui m'ont vraiment plu, qui sont assez en phase avec ma personnalité, où je bougeais beaucoup, où je partais à l'étranger, où j'étais beaucoup sur le terrain, beaucoup à la rencontre des interlocuteurs, et moi, c'est ce que j'aime.
Ouais, t'as eu une introduction au secteur TP, plutôt en phase et plutôt cool pour toi, avec ta personnalité, puisqu'elle était vraiment adaptée à ce que tu étais à ce moment-là de ta carrière, à ce que tu voulais... ce que tu voulais être, ce que tu voulais faire. Et du coup, cette transition, elle s'est faite plus facilement que prévu, plus facilement que ce que tu avais imaginé vers le monde du TP, du luxe au TP, quoi.
Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est les missions qui m'ont séduite. Et après, au fur et à mesure des semaines et des mois, je me suis pris au jeu du TP vraiment... du secteur, en fait. C'est là que j'ai compris vraiment l'intérêt du secteur, mais je trouve que de l'extérieur, c'est un secteur qui est pas sexy, qui est pas forcément attirant. En tout cas, pas forcément pour tout le monde. Et c'est que quand vraiment on rentre dans ce secteur-là et qu'on voit les choses de l'intérieur, qu'en fait on découvre que c'est passionnant, que c'est très loin des clichés qu'on imagine, que c'est un secteur clair. Qui bouge et dans lequel on s'ennuie pas une seule seconde, quoi.
Ouais, bien sûr. Et puis, bah, tu vois, ça fait un peu écho à une discussion que j'avais eue avec Anthony Goubert de Radio TP, où on disait que, bah, en fait, enfant, t'avais plein d'enfants qui jouaient avec des machines TP. Et au final, au fur et à mesure de quand tu évolues, quand tu grandis, bah on les éloigne un peu de toi et du coup, tu as moins cette vision du TP comme quelque chose qui est attirant, qui donne envie de travailler dans le TP. Et au final, quand tu es dans le secteur, quand tu es à l'intérieur du secteur, tu vois les acteurs du secteur TP, les machines, les différentes choses qui peuvent être faites sur les machines aussi, parce qu'il y a des choses qui sont incroyables que j'imagine plein de personnes communes du mortel se doutent qu'il y a sur une machine. C'était quoi tes premiers mois de collaboration avec ton frère, du coup, tu parles de missions assez cool où tu allais voir les clients, tu allais à l'étranger. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce qui t'a vraiment maintenu dans l'idée de travailler sur ce secteur avec ton frère?
Alors, les deux ou trois premiers mois, ils ont été assez folklore pour être honnête, parce qu'en fait, Pierre m'a lancé dans le grand bain sans aucune formation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère, c'est un excellent chef d'entreprise, mais un très très mauvais formateur. Il n'est pas du tout pédagogue, il n'est pas du tout patient. Donc, il n'a pas du tout pris le temps de me former, mais à la rigueur, moi, ça me va de me dire, voilà, teste et apprends par toi-même. Okay. Donc, du coup, je suis partie faire un petit tour en Europe pour aller à la rencontre d'entreprises qui ne nous connaissaient pas du tout. Donc, en fait, c'était assez challengeant parce que notre réputation, elle était à zéro. Là-bas, ils ne nous connaissaient pas du tout. Et donc, je venais pour me présenter, pour leur dire ce que je recherchais comme machine. Et en fait, cette introduction-là, ça va, petit à petit, ça allait. Mais quand il s'agissait ensuite d'expertiser les machines, mais c'était le cosmos complet pour moi, parce que je savais pas où regarder, je savais pas quoi regarder. Le bruit, je savais pas si, enfin, ça me parlait pas. Donc, du coup, j'étais complètement désarmée. Donc, souvent, j'étais en FaceTime, en fait, avec mon frère. Je disais, bah, regarde là, il y a un pet. Attends, mais le bruit moteur, je trouve pas qu'il est bizarre. Enfin, essayait de s'en sortir comme ça à distance. Mais ouais, c'était assez approximatif les débuts. Ouais. Mais après, d'un autre côté, je trouve que c'est comme ça qu'on apprend le plus vite. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé et ce qui m'a aussi convaincu de rester dans ce secteur-là, c'est qu'en fait, les fournisseurs et les clients, c'est eux qui m'apprenaient les choses au départ. Okay, ouais. Et c'est pour ça que le côté brut de décoffrage qui me faisait un peu peur au début, bah, j'ai quand même découvert un côté assez bienveillant. Et c'est eux qui m'expliquaient, en fait, bah, regarde, là, la machine, elle a un problème. Ou, bah, tu vois, la prochaine fois, il faut que tu regardes à tel endroit.
Ouais.
Et voilà, donc... je pense que tu me posais la question, qu'est-ce qui t'a plu au début? Je pense que c'est vraiment le rapport humain et l'échange qui est très simple, très très authentique, et c'est souvent des belles histoires. En fait, c'est les clients, les fournisseurs, c'est souvent des gens qui sont vraiment passionnés, et du coup leur passion, elle est communicative.
Ouais, elle est communicative, ouais. Bien sûr, bah c'est ça, ouais. C'est un peu là-dessus que j'allais rebondir. C'est vraiment qu'au final, bah t'as eu un peu la découverte d'une... T'as un peu déconstruit cette idée reçue du brut de décoffrage. Quand t'es en approche du secteur, tu te dis que c'est sûrement un secteur assez brut, justement, avec des relations plutôt compliquées avec les fournisseurs, avec les personnes. Et au final, tu te rends compte que humainement, t'es face à des gens qui sont passionnés, qui savent parler de machines TP comme s'ils te vendaient quelque chose de luxueux, comme t'as pu le voir dans des discussions un peu moins... un peu moins concrète dans tes précédentes expériences. Et du coup, c'est clair que ça permet aussi de se dire, bah, en fait, voilà, je découvre quelque chose. Et je trouve que la découverte par l'humain par la passion des gens, par le charisme qu'ils ont à te raconter les histoires, c'est clair que ça t'accroche forcément à un secteur qui n'était pas forcément le tien au début et qui te laisse une place à acquérir aussi avec expérience, quoi.
Voilà.
Les rôles, du coup, dans la boîte entre toi et ton frère, c'est quoi? C'est toi, tu t'occupes vraiment de faire les présentations avec le client? Tu vas voir et t'expertises les machines? C'est quoi les rôles que vous
non.
occupez actuellement?
Alors, déjà, la division des tâches, lui, ça reste le chef de l'entreprise. Moi, je suis salarié, donc toute la partie gestion de l'entreprise, c'est lui qui la gère. Moi, je vais gérer la partie commerciale et la partie marketing dès qu'on sort de l'Île-de-France. En fait, lui, historiquement, ça a toujours été lui qui a géré l'Île-de-France. Il a un gros portefeuille client dans la région. Et voilà, c'est beaucoup plus facile pour lui de continuer à gérer ça. Puis moi, de toute façon, la région Île-de-France, c'est pas ma préférée. Donc, en fait, lui, il garde ça. Il garde toute la gestion de l'entreprise. Et moi, j'ai les autres régions. Donc, je suis pas forcément présente dans les autres régions très régulièrement, mais j'essaye de faire des tournées plusieurs fois dans l'année où je vais en Bretagne, je vais en Rhône-Alpes, je vais un petit peu partout pour à la fois acheter les machines.
Ouais. Voilà. Du réseau fournisseur et du réseau que vous avez construit, vous, entreprise Treptel, au fur et à mesure des années dans le territoire hors Île-de-France qui est du coup réservé à ton frère, c'est ça?
Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, cette mission commerciale, c'est à la fois de l'achat et de la revente. Et après, il y a une autre partie de mes missions qui consiste à faire du marketing. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de communication sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et voilà. Donc, le partage de tâches, il est assez clair. À mes yeux, il a toute la partie barbante et moi, j'ai la partie rigolote.
Ok. Ouais, donc ça te permet aussi de rester à 100% aligné avec ce que tu cherchais aussi comme activité à la suite de ton parcours dans le luxe, parce qu'au final, peut-être que cette partie, si tu avais cette partie un peu plus gestion à ta charge, tu serais peut-être moins passionné aussi par le secteur, tu verrais peut-être des côtés un peu moins fantasques que ceux que tu vois actuellement en allant voir les gens, en allant découvrir les machines, en discutant avec eux aussi avec cette partie-là, c'est clair.
Ouais, exactement.
Et donc, du coup, tu parlais de pas mal de sujets dans ton activité qui était la communication. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu ton activité. C'était sur les réseaux. Tu as un compte qui s'appelle Solène Machinerie où tu montres énormément de machines. Pourquoi avoir choisi, du coup, de communiquer énormément sur un secteur qui, on pourrait croire, n'est pas forcément sur les réseaux ou n'est pas forcément enclin à ce type de communication?
Alors, donc ça, c'est encore une idée de Pierre. Il a des très bonnes idées. Moi, au départ, j'y croyais pas parce que déjà, je n'avais pas forcément une appétence pour les réseaux sociaux. À titre personnel, j'étais vraiment pas beaucoup dessus. Et en plus, oui, je trouvais que pour moi, les réseaux sociaux, c'était beaucoup d'esthétique. Donc pour moi, fallait mettre en avant des produits, voilà, que le grand public allait trouver beau. Mais en fait, j'avais vraiment tout faux puisqu'il a insisté et il a bien fait. Et en fait, depuis 2 ans, on le voit. C'est un secteur tellement de passionnés que dès qu'on met une machine sur les réseaux sociaux, tout le monde like, tout le monde commente, tout le monde participe. Et en fait, qu'on poste notre quotidien qui est assez banal ou qu'on poste un salon où on voit plein, plein, plein de machines, ça va à chaque fois fonctionner. Et en fait, nous, ça nous aide énormément dans notre business puisque ça nous permet de développer un réseau et d'être présent dans des endroits où on n'est pas assez présent physiquement. De toute façon, on n'est que deux, donc on ne peut pas être partout.
Clair.
Et typiquement, je vais peu dans le sud de la France parce que c'est quand même loin et c'est coûteux d'y aller à chaque fois en termes de déplacement. Mais voilà, il n'y a pas très longtemps, il y a un client près de Narbonne qui nous a acheté une machine parce que, bon, j'étais allée le voir une fois, mais il nous a suivis sur les réseaux sociaux. Du coup, ça permet d'entretenir la relation. Et en fait, c'est là qu'on voit le vrai intérêt. C'est vraiment qu'on va se lier avec les clients grâce à ça. Enfin, plutôt, c'est eux qui vont se lier à nous et qui vont s'attacher un petit peu à l'histoire de la société, etc. Et après, ça nous permet aussi de nous approvisionner. C'est-à-dire que sur les réseaux, dans la semaine, je ne sais pas combien de machines on me propose, mais c'est des quantités assez impressionnantes. Donc, toutes les machines ne sont pas reprises parce que déjà on peut pas toutes les reprendre et puis surtout il y en a certaines qui nous intéressent pas forcément, mais ouais, c'est un truc de dingue. À chaque fois que j'ouvre Instagram, il y a beaucoup beaucoup de messages, donc ça prend beaucoup de temps à gérer. Mais c'est très riche pour nous, c'est une énorme base de données.
Ouais, c'est une grosse mine d'or à la fois commerciale et à la fois en communication, parce que c'est clair que en parcourant un peu le compte, déjà on a, si on connaît pas le secteur ou qu'on ne connaît pas les différents types de machines, Déjà, on a une, si on scrolle vraiment jusqu'au bout, je pense qu'on a une idée vraiment large de tout ce qui est possible de se faire en outils TP, en machine et autres. Mais c'est surtout le fait de pouvoir les montrer de manière assez simple, de manière concrète. On fait le tour de la machine, on montre ce qu'il y a de différent sur ce modèle ou autre. Mais en fait, ça permet de faire un peu comme un mode d'emploi, mais beaucoup plus dynamique et un peu une descriptif produit qui peut justement être un peu barbant sur ces machines où c'est des descriptifs techniques assez robustes, assez froids, comme on peut le voir quand tu ouvres un mode d'emploi ou un descriptif technique, t'as pas trop envie d'aller jusqu'au bout du descriptif, quoi. Alors que là, tu fais ça avec l'ambition de rendre ça facile à comprendre pour tout le monde, tu vois. Moi, j'ai jamais mis un pied sur une machine TP, mais j'ai l'impression de comprendre un peu ce qui se passe dessus, comment elle fonctionne ou autre, alors que, tu vois, c'était pas du tout un truc qui aurait pu m'intéresser avant, mais ça s'est rendu passionnant par le contenu. Tu dis que c'est du temps, beaucoup de temps. Ça, tu sais à peu près combien de temps tu passes à faire du contenu? C'est combien de temps de ton activité, combien de pourcents de ton activité, ça, le contenu sur les réseaux sociaux?
C'est justement, je le sais depuis pas longtemps parce que je me suis mis une limite de temps sur Instagram, mais okay, c'est minimum 2 heures par jour.
Ouais, okay.
Ça peut être beaucoup plus en fonction de mes journées, mais c'est minimum 2 heures par jour. Et en fait, au-delà de la production de contenu, il y a aussi entretenir la communauté en interagissant avec eux, et ça prend un temps fou. Après, c'est une partie que j'aime, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui je me suis liée d'amitié aussi grâce à Instagram, mais ça, c'est chronophage.
Après, c'est comme tu dis, hein, c'est quelque chose qui maintenant est... tu pourrais pas, pour l'entreprise, ça serait compliqué de faire sans maintenant, tu penses, de faire sans cette activité de réseau en termes de déploiement sur le territoire aussi pour avoir un rayonnement hors Île-de-France. C'est un gros enjeu pour vous, ça?
Oui, on pourrait continuer sans. Si demain ma page Instagram disparaissait, l'entreprise coulerait pas forcément mais oui, on aurait à perdre parce que tout le réseau, même des marques, en fait, il y a des marques aujourd'hui qui me sollicitent pour faire de la production de contenu avec eux. Et en fait, ces marques-là nous aident aussi dans notre business. Ça nous ouvre des portes. En fait, Instagram, ça nous ouvre vraiment des portes. Donc, du coup, non, c'est sûr qu'on a vraiment la volonté de continuer dans cette voie-là.
Ouais, et puis vous avez construit, comme tu dis, un peu une image de marque, l'entreprise Treptel. Maintenant, si dans le secteur, je pense qu'elle a quand même une belle réputation puisqu'elle est connue de parts et d'autres du territoire via ce compte, via ce que vous partagez. Et puis, comme tu dis, tu partages pas que des machines, c'est pas seulement une vitrine pour la boîte, c'est aussi de partager un peu de quotidien, de vie d'entreprise, vie familiale dans une entreprise, qui est assez qui fait souvent écho, justement, comme je te disais, vu qu'il y a énormément d'entreprises familiales sur ce secteur. Il y a beaucoup de gens qui doivent se projeter, mais se dire, ouais, ils vivent un peu les mêmes choses que nous, ils font un peu la même activité, donc forcément tu crées du lien un peu moins redondant que si tu avais une activité commerciale classique où tu allais voir des gens, tu les rappelais dans 2-3 semaines ou tu avais cette relation-là, quoi.
Exactement.
Et tu parlais de Marc, TP, avec qui vous travaillez. Est-ce que c'est aussi une opportunité pour toi, les réseaux, de connaître des nouvelles marques et surtout d'apprendre sur les machines, des choses que tu as besoin d'apprendre, que tu ne peux pas apprendre via Pierre, ton frère, qui n'a pas trop le temps de te former?
Complètement. Oui. Enfin, pour moi, c'est une source d'information de fou. Donc, quand je suis les clients ou les marques, oui, j'apprends énormément de choses sur les machines. Enfin, déjà, c'est un secteur qui bouge et qui est assez innovant et assez dynamique. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle machine qui sort, je le vois tout de suite. Et c'est pas les clients qui vont me l'apprendre. C'est moi qui vais avoir l'information et c'est moi qui vais l'apprendre aux clients. Donc, ça, c'est important aussi d'être toujours au vu des nouvelles sorties. Et oui, bien sûr, j'apprends beaucoup de choses aussi sur la partie mécanique, parce qu'en fait, je suis des comptes de clients qui font les révisions eux-mêmes ou des réparations eux-mêmes. Et en fait, ils vont filmer ça, ils vont expliquer comment ça se passe. Pas tous, mais certains le font. Et là-dessus, oui, j'apprends énormément.
Ouais, c'est une grosse dose d'apprentissage qu'on peut retrouver sur les réseaux maintenant, à la fois sur le TP, à la fois sur le bâtiment aussi. Il y a beaucoup de personnes qui communiquent maintenant sur ce secteur. sur ce qu'ils font, comment ils font et surtout montrer ce qui est possible de faire. C'est des parcours comme ça qui vont aussi amener tu vois, une nouvelle génération aussi, j'imagine, sur le TP. Je vois beaucoup de, y a beaucoup de jeunes qui se lancent sur les machines TP, des manœuvres ou des playlists là-dessus. J'en vois pas mal sur Instagram qui suivent à la fois, qui interagissent avec ton compte, mais qui suivent aussi le podcast. Je trouve ça très cool de pouvoir se dire que en montrant ce qui est la réalité du secteur, une réalité qui n'est pas forcément mise en avant sur la communication, sur les réseaux ou sur autre chose, que ça puisse aussi générer ce genre de passion. On voit, c'est vrai que tu as une communauté quand même de passionnés quand il y a du contenu. Ça, tu ne dois pas avoir trop de personnes qui critiquent du contenu TP. Enfin, il n'y aurait pas forcément, il n'y aurait vraiment pas d'intérêt à critiquer la présentation d'une machine, tu vois, par exemple.
Alors, si. Alors, sur Facebook, beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne suis pas une grande fan de Facebook, mais sur Instagram, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de critiques dévalorisantes et non constructives. Mais oui, si, il peut quand même y en avoir, parce qu'en fait, les chauffeurs, les chefs d'entreprise, tout le monde, il y en a certains qui vont s'attacher à une marque ou à deux marques et qui vont détester toutes les autres. Donc, du coup, peu importe ce qu'on poste sur ces marques-là, ils vont critiquer, mais
ils défendent leurs couleurs, c'est comme les équipes
de foot, quoi, entre guillemets.
Donc, chacun sa machine.
Voilà, mais du coup, c'est presque drôle. Donc, quand je mets une vidéo sur une marque et qu'il y a plusieurs critiques, c'est pas forcément à prendre super au sérieux. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas parce qu'il y a 5 personnes qui vont casser une marque que cette marque, elle est pas géniale. Donc, du coup, voilà, faut toujours se faire son propre avis.
Ouais. Et puis ça, vu que t'étais pas forcément trop aux réseaux sociaux au début, est-ce que c'est quelque chose que t'arrives à maintenir, de prendre du recul sur aussi les commentaires que tu reçois, parce que j'imagine que avec un nombre, avec une grosse communauté, tu multiplies le nombre de personnes qui pourraient être justement de ce type-là à avoir des critiques peu constructives, à vouloir défendre corps et âme une machine ou une autre. Est-ce que tu arrives à prendre du recul là-dessus, parce que ça doit être un enjeu aussi sur ton quotidien, quoi. Clairement, ça doit impacter aussi le quotidien d'être tout le temps sur les réseaux et de devoir faire en sorte de faire abstraction, mais aussi de maintenir quand même une relation plutôt correcte avec ces personnes-là.
Alors moi, je le prends pas du tout pour moi quand il y a des critiques, parce qu'en fait, il y en a jamais, ou alors très très rarement, qui vont contre moi. Enfin, c'est jamais ma personne qui est attaquée. Après, quand il y a des critiques sur les marques, c'est la vie. Mais c'est comme nous, quand on va échanger au sujet des voitures, il y a peut-être des marques qu'on va trouver vraiment nulles et qu'on va... Donc non, je le prends pas du tout pour moi. Après, oui, ça peut arriver qu'il y ait des moqueries sur mon contenu ou sur des choses comme ça. Et après, bien sûr, faut prendre du recul, parce que et puis surtout, faut bien se rendre compte aussi de tous les retours positifs. Donc général, il y a un retour positif et un retour négatif, on va avoir tendance à trop prendre le négatif au sérieux et à retenir celui-là, alors que juste à côté, il y a un mec qui te félicite et qui te dit que c'est génial et qu'il adore te suivre. Donc voilà, je pense que j'arrive quand même à bien tempérer, et quand vraiment j'ai des contrariétés, j'en parle avec mon frère, alors il dégonfle le truc en 2 secondes, c'est ça qui est bien quand même quand
avec
on n'est pas
avec
seul.
Avec plein de pédagogie du coup.
Voilà, plein de pédagogie, exactement.
Et en termes de machines et de marques, c'est quoi les marques avec qui vous travaillez le plus? C'est quoi les marques pour qui tu as créé du contenu? Est-ce que c'est des choses pour lesquelles tu prends vraiment du temps avec eux pour co-construire le contenu, ou c'est des trucs où tu es tout le temps, c'est toi qui gère la ligne édito vraiment de ce que tu veux montrer? Est-ce que tu as des fois des enjeux comme ça avec les marques, puisque maintenant c'est aussi devenu la possibilité pour des marques TP de venir présenter leurs outils via votre compte, via l'entreprise et via cette activité que vous avez au-delà des réseaux, qui est quand même à la base négociant achat-revente de machines TP quand même.
Oui, alors ça dépend vraiment des interlocuteurs et des marques, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un petit peu ma manière de faire les vidéos, et c'est sûr que j'ai envie de garder quand même cette manière de faire et cette signature, parce que si demain je me mets à faire du contenu, par exemple, beaucoup plus long et beaucoup plus pédagogique, ça va un peu ennuyer tout le monde, donc je le fais de temps en temps, mais quand même à petite dose. Et moi, je préfère les vidéos vraiment dynamiques. Et même si on donne pas toutes les informations indispensables, c'est pas grave. Le contenu reste quand même attirant, et c'est ça que je veux garder. Mais après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui me donnent des très très bonnes idées, donc on va être dans l'échange. Donc, par exemple, il y a la marque Kobelco, qui est une marque japonaise avec qui on va être en partenariat sur toute l'année 2024. Donc, du coup, je vais créer une vidéo pour eux chaque mois. Et là, en l'occurrence, la personne qui m'encadre pour ce projet-là, c'est quelqu'un qui a des très bonnes idées, voilà, je trouve qu'il y a un regard très neuf sur le secteur aussi. Donc du coup, là, on est vraiment sur de l'échange. Donc je vais faire part d'une idée et lui de la sienne, et c'est comme ça qu'on avance bien. Et voilà, ça va vraiment permettre en fait d'avoir une présence de la marque tout au long de l'année sur les réseaux sociaux. Et puis d'apporter un autre regard aussi, parce que je pense que quand on est à l'intérieur d'une société, on va vouloir parler de telle chose, et quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui arrive et qui va dire non mais attends, mais pourquoi tu parles pas de ça, c'est génial, ou là ça va intéresser tout le monde.
Donc, ça apporte un nouveau regard aussi, un spectre différent à ce que tu avais pu ou ce que tu aurais pu montrer de la marque. Mais en tout cas, je suis content que vous alliez travailler avec cette marque, parce que j'y connais pas grand chose en machine, mais c'est souvent les machines que j'observe le plus. Je sais pas, peut-être la couleur, peut-être le design des machines, mais je les trouve vraiment cool, donc ouais. Ça me fait plaisir de pouvoir les retrouver
ils ont fait une très belle montée en puissance, donc c'est une marque intéressante à suivre, ça c'est sûr.
Ok, trop cool. Et là, pour l'avenir, si on parle un peu d'avenir, c'est quoi tes visions, tes aspirations pour le futur? Est-ce que tu disais que t'étais salarié, c'est quoi la suite pour toi, dans l'entreprise familiale? Est-ce que tu vas prendre plus de responsabilités, ou c'est pas quelque chose qui est un sujet actuellement?
Alors, si on en parle, pour l'instant, rien n'est fixe et rien n'est sûr, mais oui, on a des projets avec Pierre qui me permettraient de prendre plus de responsabilités. Après, voilà, on est encore en cours de discussion là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même Pierre qui a créé la société il y a 9 ans. Moi, je l'ai rejoint il y a 2 ans. Et en fait, notre binôme fonctionne très bien. Lui, c'est vraiment un excellent gestionnaire. Donc, je suis vraiment pour lui laisser la main sur tous ces sujets-là. Et après, sur les projets futurs, oui, ça va être vraiment aussi quand même de développer la partie réseaux sociaux, qui est une partie auquel je prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Et voilà, donc peut-être que si tu me reposes la question dans 6 mois, j'aurai une réponse un peu plus sûre.
Ok. Mais donc du coup là, si on reprend si on fait un saut dans le début de l'épisode où tu disais que le secteur, c'était pas forcément un secteur qui t'attirait au début. Maintenant, est-ce que tu te vois travailler dans un autre moment de ta vie, dans un autre secteur, mais est-ce que là, à court terme, tu ne te vois pas du tout quitter le TP, quoi? Maintenant, c'est un truc que tu voudrais faire
Ouais, non, parce que je trouve que j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai encore tellement de choses à voir et à apprendre, et je ne suis pas du tout dans ma zone de confort. Je pense que le jour où j'aurai envie de changer, c'est quand peut-être vraiment je maîtriserai tout et que je vais peut-être un petit peu m'ennuyer, mais là, je suis encore très loin de mon objectif. Il y a beaucoup de choses que je veux encore développer, donc pour moi, j'en suis vraiment qu'au début. Après, voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais ce serait dommage de m'arrêter en si bon chemin. Avec Pierre, on fait quand même une bonne équipe, c'est agréable de travailler avec lui, et mes clients, ouais, c'est vrai que je m'y suis attachée. Donc demain, c'est sûr que je n'ai pas du tout envie de partir. Après, dans plusieurs années, ça, je ne sais pas, on verra.
Mm-hmm. Il y a un invité qui m'avait dit une fois, qui n'était pas du tout du secteur, justement, pas du tout du bâtiment, qui m'avait dit on peut arriver dans le bâtiment, dans le TP, par hasard, mais on ne reste jamais par hasard.
Ouais, c'est tout à fait ça. C'est un hasard
si tu restes dans le secteur.
Ouais, non, vraiment, c'est tout à fait ça.
Et de travailler avec ton frère, travailler en famille, c'est quelque chose qui est important pour toi? Ça représente quoi aussi de vivre cette aventure avec lui pour faire une dernière boucle sur ces aventures familiales vraiment cool comme celle chez Treptel?
Je trouve que c'est vraiment redonner du sens à son métier, dans le sens où avant, quand je travaillais pour des grosses sociétés, je connaissais même pas en fait le directeur, donc je voyais bien à quoi servait mon travail, mais il y avait quand même un côté vraiment noyé dans la masse, et finalement la finalité, j'avais tendance à la perdre de vue quelquefois, alors que là, je sais exactement pourquoi je travaille, je sais exactement aussi où va le chiffre d'affaires, je vois tout. Enfin, du coup, il y a un côté beaucoup plus transparent, beaucoup plus concret. Et
tu trouves que tu as de la valeur dans ce que tu fais. Tu sais exactement que chaque activité que tu vas faire ou chaque action que tu vas faire chaque jour au sein de l'entreprise va avoir un impact, et tu vois le résultat, quoi. Tu peux suivre aussi, tu peux suivre ce que tu fais, quoi.
Voilà, exactement. Donc, puis il y a aussi le côté confiance, parce que quand on travaille en famille, du coup, peut-être que ça dépend des familles, mais en tout cas, nous, on se fait vraiment à 100% confiance, et on sait qu'on est quand même tous les deux plus ou moins à fond. Ça dépend des périodes, mais on est quand même en général très investis. Et du coup, il y a une synergie. Faire équipe avec mon frère, c'est je sais pas, ça me motive, je pense, deux fois plus.
Ok, ouais, c'est un bon moteur, c'est clair. Ouais. C'est clair de se dire, bah, c'est la famille, quoi. C'est cool de pouvoir travailler en famille, et surtout si ça se passe bien, si vous arrivez à avoir les bons rôles. Des fois, je sais que ça peut être un enjeu compliqué aussi dans les boîtes familiales de savoir qui fait quoi, de bien être sûr, mais là, ça a l'air d'être bien défini. On a quelqu'un qui est bien installé, Pierre, qui est à la partie gestion, qui maîtrise ça de main de maître et qui, en plus, a, comme tu dis, a des idées, qui a une vision assez claire. C'est important d'avoir aussi la vision quand on est à la tête d'une boîte. Donc, c'est cool. Et toi, tu trouves ta place petit à petit. Ça fait 2 ans, comme tu dis. Et puis on verra où ça va vous emmener. Mais en tout cas, c'est une belle aventure que vous menez, vous, entre frères et sœurs, sur un secteur qui est super valorisant et qui mérite d'être mis en avant un peu plus que ce qu'on fait d'habitude. Et il va me rester une dernière question, Solène. C'est la question, histoire de rebondir sur un autre acteur hyper inspirant du secteur. Si tu avais une personne à inviter sur le média sur 6h du BAT pour réveiller le BTP, qui ça serait ?
Alors, j'ai un nom qui me vient, mais je pense qu'il va être furieux que je le cite, parce que c'est pas quelqu'un qui va beaucoup communiquer sur son métier et se mettre en avant. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui devrait le faire, parce que c'est quelqu'un de très inspirant, je trouve. C'est Benoît Thévenet, le patron de la société technique Méca 01. Donc lui, il est basé dans le 01, comme son nom l'indique. Et en fait, c'est un mécanicien qui, en fait, je trouve que c'est un artiste parce qu'il arrive vraiment à redonner une seconde vie aux machines en les reconditionnant. Ce qui fait que la machine, en fait, elle va arriver, elle aura par exemple 5000 heures. Elle aura des bobos, elle aura son histoire, elle aura du jeu. Et puis elle fera moins rêver qu'une machine neuve, parce qu'une machine neuve, elle brille, donc ça fait forcément rêver. Et en fait, il va vraiment passer du temps sur cette machine, et en fait, quand elle va le ressortir de l'atelier, elle va être mais vraiment comme neuve, comme si elle sortait de l'usine. Et du coup, tout le monde la regarde avec les yeux qui brillent. Et ça, je trouve ça génial, parce que du coup, il arrive à redorer l'occasion et à montrer que les machines d'occasion, c'est pas des tas de ferraille tout rouillés, quoi. Donc c'est comme nos téléphones et nos ordinateurs. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les produits reconditionnés. Dans le TP, ça a toujours existé aussi. Mais là, nous, on travaille avec Benoît, et c'est vraiment le meilleur dans son domaine. Et lui, je pense que ce serait super intéressant de l'interviewer, parce qu'il est passionné, il a des connaissances de fou, il est très bavard aussi. Ce serait intéressant pour apprendre plein de choses.
Donc si je l'invite, il va être furieux au moment de l'invitation, mais dès qu'on aura commencé à discuter un peu, tu penses que
ça ira vraiment. Moi je vais tout faire pour je vais tout faire pour le convaincre, parce que ça peut être vraiment super intéressant à écouter.
Oh cool. Mais écoute, merci Solène d'être venue ce matin pour réveiller le BTP. J'espère que tu as passé un bon moment, et puis j'espère que les personnes qui écoutent cet épisode apprécieront cette énergie que vous avez à valoriser les machines TP, à valoriser ce secteur. Et puis vous pouvez retrouver du coup Solène sur Instagram, donc Solène Machinerie, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Trop cool. Bah écoutez, allez suivre ce compte si c'est pas déjà fait, parce que vous êtes déjà plus de 30 000 dessus, donc il y a déjà beaucoup de monde, je pense, qui suivent, mais on ne sait jamais. Il faut aller suivre ce compte. Merci Solène, en tout cas.
Merci à toi, Nicolas.
Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier. Et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.